Il pénètre donc dans la salle des audiences solennelles, se glisse à travers les groupes des grands seigneurs présents à l'entrevue, et enfin arrive aussi près que possible du trône, juste au moment où Louis XIV donnait congé aux ambassadeurs. Alors, tout haut, et comme s'il se fût adressé à quelqu'un, « Vous savez, dit-il, la surprenante nouvelle, Lavallière est religieuse. » À ces mots, le roi fait un brusque mouvement et se tournant vers Saint-Aignan. « Que dites-vous, duc ? » s'écrie-t-il. « Que dites-vous ? » La foudre tombant au milieu de la salle eut moins surpris la noble assemblée que cette violation étrange, inconcevable de l'étiquette, car enfin, le tonnerre est dans les choses naturelles. Les reines sont stupéfiées, les ministres épouvantés, les courtisans qui n'ont pas entendu les paroles du duc ne comprennent rien à l'exclamation du roi. Les ambassadeurs pétrifiés s'arrêtent à moitié de l'arc de 45 degrés que décrivait leur dernière courbette. Cependant, Saint-Aignan, sur un signe du roi, s'est approché du trône et en deux mots a tout raconté à son maître. Louis XIV se lève, ivre de colère. « Un carrosse » crie-t-il. « Vite, un carrosse ! Suivez-moi, duc !» La reine-mère, forte de son ascendant, veut essayer de retenir son fils. « Vous n'êtes guère maître de vous-même, sire ! » lui dit-elle. « Si je ne le suis de moi, répond-il d'une voix tonnante, je le serai de ceux qui m'outragent !» Et, sortant aussitôt, il se précipite à travers les escaliers. Dans la cour, il n'y avait pas de carrosse, mais Saint-Aignan, qui a tout prévu, a d'avance fait préparer des chevaux. Le roi s'élance en selle et, suivi seulement de 4 gentilshommes, il part à fond de train pour Saint-Cloud. Arrivé au couvent, il trouve Lavallière, à demi évanouie, étendue sur les dalles du parloir. Les religieuses lui ont refusé l'entrée du couvent. Louis XIV, fondant en larmes, court à sa maîtresse. « Ah, que vous avez peu de soin, lui dit-il, de la vie de ceux qui vous aiment !» Il veut l'entraîner dehors, mais elle refuse de le suivre. « C'est Dieu, dit-elle, qui m'a conduite ici !» Mais elle ne peut se défendre longtemps contre les prières si tendres de son amant. « On est bien faible quand on aime, dit-elle, et je ne me sens point la force de résister à votre majesté. » Louis XIV, alors, avec l'aide des religieuses et de ses amis, tous émus jusqu'aux larmes par une scène si touchante, transporte Lavallière dans un carrosse et, rayonnant de bonheur, reprend avec elle le chemin des Tuileries. Il paraît que, de tous les assistants, le seul Roquelaure n'avait pas été attendri, car le lendemain, il disait tout bas « Par ma foi, ces gens pleuraient si agréablement qu'ils m'en faisaient venir envie de rire. » La rentrée de Lavallière à la cour fut presque un triomphe. Le roi voulut lui-même la reconduire chez madame et, en la lui présentant, il la pria de la considérer et de la traiter désormais comme une personne qui lui était plus chère que la vie. « Je la traiterai, sire, répondit ironiquement Henriette d'Angleterre, comme une fille à vous. » Mais cet esclandre devait avoir bien d'autres suites. Il révéla d'abord à Louis XIV l'intrigue de madame et de Guiche, puis le complot tramé contre Lavallière. La fausse lettre du roi d'Espagne destinée à la reine arriva aux mains du roi. Il avait la mesure de ce qu'on pouvait oser contre sa maîtresse, il voulut faire un exemple. La comtesse de Soissons reçut l'ordre de quitter la cour, le chevalier de Gramont fut exilé. Montalais fut enfermé dans un couvent. Enfin, Guiche crut prudent d'aller visiter la Pologne, bien il fit. Quelques mois plus tard, Lauzun, rival de son maître, ne fut-il pas enfermé à la Bastille pour avoir trop plu aux dames ? Lafayette, tome 1 et 4. Montpensier, mémoire, tome 40, pages 174 et suivantes. Motteville, mémoire de Gramont. Cette fuite au couvent de Saint-Cloud fut heureuse pour Lavallière. Elle redoubla la passion du roi. Louis, à cette époque, était amoureux fou de sa maîtresse, au point même, dit M. Sainte-Beuve, d'être jaloux dans le passé et de s'inquiéter s'il était bien le premier qui se fût logé dans son cœur et si elle n'avait point eu quelque première inclination en province pour M. de Bragelonne, auquel il convient d'ajouter le surintendant Fouquet, dont le nom revenait dans toutes les querelles des deux amants. Cette jalousie du roi imposait à la Vallière la plus grande circonspection. Un geste, un regard d'elle inquiétait le roi, un mot, une pensée lue dans ses yeux lui portait ombrage. Qu'on juge donc de la colère du roi lorsqu'un matin, passant en revue les cadets de sa maison, il vit sa maîtresse sourire à un jeune homme qui, de son côté, l'avait familièrement salué. Laissant là tout aussitôt la revue, Louis courut à la Vallière et, d'un ton irrité, lui demanda quel était ce jeune homme. Elle se troubla excessivement et répondit enfin que c'était son frère. Le roi n'en voulait rien croire, il envoya tout de suite aux informations. C'était bien un frère de Louise, en effet, et jamais elle n'en avait parlé au roi, elle qui, d'un mot, pouvait faire la fortune de ce jeune homme. Il lui eût semblé honteux d'abuser de relations dont elle rougissait pour enrichir sa famille ou lui ouvrir le chemin des honneurs. Désormais, le roi aima presque ouvertement Mademoiselle de la Vallière. Le voile était déchiré, le mystère n'était plus qu'officiel. Il passait presque toutes ses soirées avec elle et souvent ne s'en allait qu'après 3 heures du matin. Marie-Thérèse, la pauvre reine, n'osait élever la voix pour se plaindre et elle dévorait sa jalousie et ses humiliations sans cesser de faire bon visage à son mari. Cependant, le parti de la reine-mère et surtout des dévots, qui très probablement les événements l'ont prouvé, eut passé au roi une maîtresse adroite et qui eut agi dans le sens de sa politique envahissante, ce parti, qui essayait alors son influence, résolut de tenter quelques efforts pour renverser la Vallière. En vain. L'heure n'était pas venue de la dévotion. Ce fut tout d'abord le très ridicule duc de Mazarin qui entra en scène. Un matin, au lever du roi, il apparut tout vêtu de noir. Il venait raconter un rêve prodigieux qui avait épouvanté ses nuits. Ce rêve, avertissement céleste, l'avait prévenu que, si le roi ne renvoyait pas la Vallière, les malheurs les plus épouvantables allaient fondre sur la France. Louis XIV remercia courtoisement le duc et lui conseilla avec bonté de se faire saigner longtemps avant de revenir à la cour. Le duc, prévenu ainsi, se retira pour ne reparaître à la cour que sous le règne de la folle Fontange, au sujet de laquelle il avait eu un autre rêve, ou une autre lune, comme on voudra, qui lui montrait la veuve Scarron s'enlevant aux cieux dans un char de feu, à l'instar du prophète. Au duc de Mazarin succéda le père Anat. Sur les prières instantes des reines, ce bon père consentit à parler très fortement au roi et à le menacer de quitter la cour si la Vallière ne la quittait. Louis XIV prit fort allègrement la menace du bon père Anat, il lui accorda même son congé, assurant que désormais son curé lui suffirait. L'excellent religieux s'éloigna, tout déconfit du peu de succès de ses menaces et du succès trop inespéré de sa signification de congé. Le parti dévot eut presque peur. Il comprit qu'avec un prince qui le prenait sur ce ton, il fallait, si on ne voulait tout perdre, user de paternelle indulgence et se montrer coulant. Aussi, le lendemain de la protestation infructueuse du père Anat, 2 jésuites parurent au petit lever de Louis XIV. Les 2 pères se faufilèrent jusqu'auprès du roi qui faisait ses prières. Alors, l'un dit très haut à l'autre « Il faut avouer, mon père, que le zèle indiscret de notre bon père Anat est allé un peu loin. »« Je suis entièrement de votre avis, mon père, » répondit l'autre. Le successeur du père Anat partageait aussi cette opinion. Il savait qu'avec les rois, on doit préparer les voies de la grâce, mais non pas essayer de la faire pénétrer avant l'heure. À ce moment, le clergé était en baisse, Louis XIV était bien loin encore de la veuve Scarron. Il venait de faire saisir le pape et lui retenait Avignon. Enfin, il faisait saigner bien cruellement le cœur de l'Église en défendant les enlèvements d'enfants et en faisant rendre ceux qui étaient détenus dans les couvents. Mais le clergé est patient, il prit sa revanche, jusqu'ici il l'a prise toujours. C'est alors qu'Anne d'Autriche voulut tenter une suprême démarche. Elle le fit par ambition et en fut cruellement punie. Louis ne devait pas plus respecter sa mère qu'il ne respecta plus tard les lois sacrées de la conscience et de l'humanité. La reine-mère osa lui reprocher le scandale de ses amours, alors il perdit toute mesure. « Eh quoi, madame, répondit-il, devez-vous ajouter foi à tout ce qu'on dit? Cette morale que vous me prêchez si chrétiennement a-t-elle été la vôtre? On m'a assuré que non. » Anne d'Autriche se retira cruellement humiliée, et le soir même, le roi disait à ses courtisans « Quand nous serons las d'aimer et de vivre, nous parlerons comme ceux que l'amour et le plaisir quittent, comme Madame de Chevreuse, par exemple, ou Madame de Carignan. » Et comme tous les flatteurs s'extasiaient et riaient, le roi continua « Est-ce que la galanterie n'a pas toujours été et ne sera pas toujours ? Voyez mesdames de Châtillon, de Ludres, de Soubise, de Luynes, de Vitry, de Monaco, de Vivonne, de Soissons, de Pons, d'Humières, etc., etc., etc. » La litanie eût pu durer encore, car toute la cour suivait les exemples du maître. La Vallière recevait en amour le contre-coup de toutes ses attaques. Le roi qui l'avait aimé en raison des difficultés qu'il lui fallait surmonter pour l'avoir, l'adorait maintenant en raison de l'acharnement qui se déchaînait contre elle. C'était encore le bon, l'heureux temps. Depuis la fuite à Saint-Cloud, la situation de la Vallière était devenue plus tolérable. Madame, par ses imprudences, s'était mise à la discrétion du roi, elle respecta la maîtresse de celui qui pouvait tout. Elle fut bonne sans ostentation, indulgente sans fausse pruderie pour sa fille d'honneur. Elle aida même à dissimuler les deux premières grossesses de la Vallière, qui put ainsi mettre mystérieusement au monde deux enfants qui ne furent jamais déclarés. Colbert, le grand ministre, qui, pour conserver son influence dans les grandes affaires du royaume, était obligé de descendre aux plus petits détails de la vie du roi, se chargea de ses deux enfants. Le terme venu, Madame donnait à la Vallière un des pavillons du palais royal, retraite mystérieuse où nul ne pouvait pénétrer que les confidents, le roi, les médecins, une ou deux amies qui s'étaient attachées à la pauvre Louise. Madame se chargeait d'excuser, ou plutôt de cacher, l'absence de sa fille d'honneur, et la Vallière pouvait reparaître sans qu'on se fût aperçu de rien, au moins en y mettant un peu de bonne volonté. Ses deux premiers enfants, deux garçons qui vécurent peu, furent secrètement enlevés par Colbert. On les baptisa sous un faux nom à une petite église de la rue Saint-Denis. D'anciens domestiques, de pauvres gens, parmi lesquels un vrai pauvre de la paroisse, tinrent sur les fonts baptismaux ses fils du plus grand roi du monde. Revue rétrospective, juillet 1834. Extrait d'un manuscrit de Colbert intitulé « Journal fait par chacune semaine » de ce qui peut servir à l'histoire du roi du 14 avril 1663 au 9 janvier 1665. On voit là le grand ministre, président à deux accouchements de Mademoiselle de la Vallière. Les divertissements se continuaient sans interruption à la cour, les prétextes ne manquaient pas. En apparence, la reine et madame étaient les divinités de ces enchantements, mais tout le monde savait maintenant que pour la seule La Vallière, Louis XIV déployait toutes ses magnificences, comme s'il eût été besoin d'éblouir sa maîtresse par tout ce frivole et inutile étalage de grandeur. À toutes ces fêtes, la pauvre Marie-Thérèse se traînait comme au supplice par ordre du roi. Elle eût tant aimé à pleurer en paix, cette femme éprise et jalouse, mais non, il fallait régner, subir tous ces hommages destinés à une autre, ajouter le triomphe de sa présence à tous les triomphes d'une rivale adorée. Marie-Thérèse, alors, n'appréciait pas la Vallière à sa juste valeur, elle ne comprenait pas le beau caractère de cette toute-puissante maîtresse qui osait à peine lever les yeux sur elle et qui s'inclinait devant elle jusqu'à tomber à genoux. Quelques années encore, et la reine, outragée par d'insolentes favorites, regrettera la Vallière, si humble dans sa puissance, si modeste dans ses succès. Aux fêtes intimes, impromptues de chaque soir, Le roi ne traînait pas Marie-Thérèse. Le roi se passait alors le plaisir d'aimer sans contrainte sa bien-aimée maîtresse. Travestie de façon à se rendre méconnaissable, le visage couvert d'un loup de velours, les deux amants se mêlaient aux bandes de masques de la cour qui, pendant les réjouissances du carnaval, couraient toute la nuit des Tuileries au Louvre, du Louvre au Palais Royal. Autant qu'elle le pouvait, la Vallière résistait encore à cette publicité qui lui semblait un crime. Mais elle était placée dans cette cruelle alternative d'obéir ou de perdre le cœur de son amant. Elle subissait, en courbant le front et en dévorant ses larmes et sa honte, le poids des honneurs dont l'accablait le roi, mais elle n'eut jamais un moment d'enivrement. Les poètes officiels, certains de plaire au maître, commençaient à mêler à leurs vers les noms de la Vallière. Ce n'étaient encore que des allusions délicates, mais dont la transparence ne trompait absolument personne. Dans le ballet des arts, la Vallière, fille illustre, est si digne du balustre. Pour parler comme cet insipide rimeur qui a nom Lauré, figure est déguisée en bergère à côté de son amant, et Bincérade faisait dire d'elle « Et je ne pense pas que dans tout le village il se rencontre un cœur mieux placé que le sien. » Mais Louis XIV rêvait de bien d'autres splendeurs. Les enchantements de Vaux étaient encore dans toutes les mémoires, et cette idée d'avoir été surpassée en magnificence par un sujet insolent troublait le bonheur du roi. Fouquet avait été un prodigue insensé, il fallait être plus prodigue encore. De cette époque datent les premiers triomphes de Versailles. Versailles n'était rien encore, un simple pavillon de chasse bâti par Louis XIII au milieu d'un parc. C'est là cependant que Louis XIV résolut de donner une fête en harmonie avec l'idée qu'il se faisait de sa grandeur. Il fallait tout improviser, cela charma le roi. Le 7 mai 1664 commencèrent ces fêtes merveilleuses, étourdissantes féeries de 7 jours. On avait annoncé les plaisirs de l'île enchantée, divisés en 3 journées. Mais 3 jours de seulement 24 heures ne purent suffire pour dérouler sous les yeux éblouis de toute la noblesse de France les merveilles commandées par Louis XIV. Viganari avait été le décorateur. Le nôtre avait improvisé les jardins et un paysage. Torricelli s'était chargé des feux d'artifice. Puis, comme il fallait d'autres plaisirs que ces récréations des yeux, on avait appelé la troupe des Béjarts. Bincérade composa des madrigaux pour tous les invités, et enfin, Molière avait fait, ou fait faire, la princesse des Lides. Puis, au-dessus de tous ces artistes, de ces hommes de génie, planait Colbert, l'ordonnateur suprême, Colbert qui sortait à regret les millions des coffres de l'État et qui voulait essayer, tout en obéissant à son maître, de faire la part du feu. À ces fêtes de Versailles, Molière osa célébrer les amours du roi. Dans la princesse des Lides, tous les assistants comprirent l'allusion lorsqu'un vieux courtisan dit, en s'adressant au prince, « Moi, vous blâmez, seigneur, des tendres mouvements où je vois qu'aujourd'hui penchent vos sentiments? Je dirais que l'amour sied bien à vos pareils, que ce tribut qu'on rend au trait d'un beau visage, de la beauté d'une âme est un vrai témoignage, et qu'il est malaisé que, sans être amoureux, un jeune prince soit aigrant et généreux. » Les applaudissements à ces vers si directs éclatèrent comme une tempête, et la pauvre Lavallière faillit mourir de honte sous le poids de tous les regards qui désignaient aux reines indignées l'objet charmant de ces allusions. Cette grande féerie de 16 jours fut, dit M. Michelet, un triomphe sans victoire, faite sans but, donnée non pour la reine et non pour Lavallière, une maîtresse de 3 années, mais donné par le roi au roi. Louis XIV fêtait Louis XIV. Bien d'autres hontes, c'est-à-dire bien d'autres faveurs, allaient accabler la Vallière. Louis XIV souhaitait plus de publicité encore. Le roi imposa sa maîtresse à Marie-Thérèse, sa femme, à Anne d'Autriche, sa mère, et les contraignit de la recevoir. Madame de Montausier, cette femme qui naturellement avait de l'âpreté pour tout ce qui s'appelle la faveur et qui avait remplacé dans la charge de surveillante des filles d'honneur la digne duchesse de Navailles, avec un roi comme Louis XIV, la garde des filles d'honneur devenant impossible, Madame de Navailles eut l'héroïque courage de prendre sa retraite plutôt que de favoriser les amours du roi. Madame de Montausier, en lui succédant, prenait l'engagement tacite de fermer les yeux à propos. De ce moment, en effet, les entrevues du roi et de Mademoiselle de la Vallière furent singulièrement facilitées. Madame de Montausier fut chargée de signifier aux reines la volonté du roi. Elle s'acquitta habilement de cette commission épineuse et acquit ainsi de nouveaux droits aux bonnes grâces du maître. La réputation de vertu de Madame de Montausier et de son Altesse de Marie avait été beaucoup trop surfaite pour qu'il ne soit pas inintéressant de rétablir un peu les choses dans leur vrai jour. Il n'y a qu'à copier Madame de Motteville à la page où elle raconte la démarche, couronnée d'un si heureux succès, de Madame de Montausier près des deux reines. « Je ne puis, en cet endroit, écrit-elle, m'empêcher de dire une chose qui peut faire voir combien les gens de la cour, pour l'ordinaire, ont le cœur et l'esprit gâtés. Je rencontrai Madame de Montausier qui était ravie de ce dont la reine était au désespoir. Elle me dit avec une exclamation de joie. « Voyez-vous, madame, la reine-mère a fait une action admirable d'avoir voulu voir la Vallière. Voilà le tour d'une très habile femme et d'une bonne politique. » Mais, ajouta cette dame, la reine est si faible que nous ne pouvons pas espérer qu'elle soutienne cette action comme elle le devrait. Le langage de la très prude Madame de Montausier ne laisse pas que de stupéfier la bonne Motteville. Véritablement, continue-t-elle, je fus étonnée de voir dans la comédie de ce monde combien la différence des sentiments fait jouer des personnages différents. Le duc de Montausier, qui était en grande réputation d'homme d'honneur, me donna quasi en même temps une pareille peine, car, en parlant du chagrin que la reine-mère avait eu contre la comtesse de Brancas, il me dit ces mots. « Ah, vraiment, la reine est bien plaisante d'avoir trouvé mauvais que Madame de Brancas ait eu de la complaisance pour le roi en tenant compagnie à Mademoiselle de la Vallière. Si elle était habile, elle devrait être bien aise que le roi fût amoureux de Mademoiselle de Brancas, car étant fille d'un homme qui est, à elle, son premier domestique, lui, sa femme et sa fille lui rendraient de bons offices auprès du roi. Voilà l'homme aux mœurs sévères, le misanthrope de la cour de Louis XIV. On se demande avec stupéfaction comment devaient être les Philintes. La Vallière acceptait des reines, Louis n'eut pas besoin de l'imposer aux autres dames de la cour, toutes se disputaient les bonnes grâces de la favorite. Et lorsqu'il décida que, désormais, les dames accompagneraient Mademoiselle de la Vallière, il rendit un décret inutile, depuis longtemps on était allé au-devant de ses désirs. Il y avait d'autant plus de mérite à adorer le caprice du maître qu'on ne le comprenait guère, on n'appréciait nullement à la cour la beauté de la Vallière, et, faut-il le dire, son ambition était pour les courtisans la mesure de son esprit. Tandis que toutes les platitudes rampaient à ses pieds, tout bas on raillait sa figure, sa démarche quinquennale, et surtout sa niaiserie. On prétendait qu'elle passait des journées entières à une fenêtre, occupée à souffler dans une paille des bulles de savon. Distraction bien innocente dans tous les cas, et qui n'eût guère amusé toutes ces belles dames qui n'avaient aucun goût pour les plaisirs innocents. La reine Marie-Thérèse elle-même, cette reine si disgraciée de la nature, se demandait par quel charme cette fille boiteuse et fade pouvait lui avoir enlevé le cœur de son époux. Des couplets satiriques, des épigrammes injurieuses contre la Vallière, circulaient sous le manteau de la cheminée, mais on n'osait les fredonner encore que toute porte bien close. Pour bien moins que cela, le roi déjà avait fait de terribles exemples. On sait le sort du vaniteux cousin de Madame de Sévigné, Bussy, cet impitoyable railleur que l'histoire amoureuse des Gaules conduisit droit à la Bastille. Le seul soupçon d'être l'auteur d'un Noël fameux sous le nom des Alléluia, fit plus pour sa disgrâce que le déchaînement des colères que souleva le très célèbre pamphlet. Un couplet de ce Noël, surtout, obtint un succès incroyable de vogue clandestine. On le chantait partout, avec des sourdines, de la peur, bien entendu. que Déodatus, ce nom de Dieudonné qu'avait reçu Louis XIV lors de sa naissance, trop inattendu pour ne pas être un peu miraculeuse, revient dans toutes les épigrammes du temps. Ce roi si grand, si fortuné, plus sage que César, plus vaillant qu'Alexandre, on dit que Dieu nous l'a donné. Hélas, s'il voulait le reprendre, est heureux de baiser ce bec amoureux qui d'une oreille à l'autre va, alléluia. Déodatus, c'est le roi, au comble de l'irrévérence. Quant au bec amoureux, c'était bien celui de la favorite qui, dans le fait, avait la bouche un peu grande. La mort d'Anne en Autriche, janvier 1666, porta un terrible coup au bonheur de Mademoiselle de la Vallière. Ce fut le grand et premier échec de sa fortune. Louis XIV, que la crainte de sa mère avait toujours contenu, ne garda plus désormais aucune mesure. Il fit sortir sa maîtresse de chez madame, lui donna l'hôtel Biron, monta sa maison avec une splendeur princière, lui fit présent de meubles magnifiques et de toilettes royales. Ainsi, à deux pas des Tuileries, le roi eut, au vu et su de tous, son petit ménage. Il eut une autre femme à côté de sa femme légitime, pauvre et malheureuse reine qui tremblait devant cet époux qu'elle adorait et qui, contre tous les outrages dont il l'abreuva, n'eut jamais que des larmes. Alors il y eut deux cours, la petite et la grande, la cour officielle où toute la noblesse était admise, la cour intime où seuls les favoris avaient leurs entrées. On désertait les salons de la reine pour ceux de la favorite. Tous les honneurs, on disait ainsi alors, ne changèrent rien à la craintive modestie de la Vallière, tant ce scandale lui était aussi odieux qu'à la reine elle-même. Aussi, alors que tant d'autres eussent marché haut le front, elle marchait courbée sous le poids de sa faveur, essayant à force d'abnégation et d'humilité de se faire pardonner son élévation. Bien plus, au péril de sa vie, elle essayait encore de cacher les preuves de sa faiblesse, espérant sauver ce qui lui restait de réputation après ce grand naufrage de son honneur. Elle était déjà enceinte et faisait tous ses efforts pour dissimuler sa grossesse. À force d'imprudence, d'extravagance même, elle réussit à ne pas éveiller l'attention. Elle était de toutes les fêtes, accompagnée partout le roi qui, dans sa cruauté égoïste, ne lui épargna pas une occasion de souffrir ou de risquer sa vie. Elle montait à cheval, suivait les chasses et, avec toute la cour, changeait à chaque instant de résidence, tantôt à Saint-Germain, à Paris, à Fontainebleau. Jamais les atroces douleurs que devait lui causer le mouvement des carrosses, moins bien suspendues alors que nos moindres charrettes, et toujours menées grand train, ne lui arrachèrent aucun cri, ne troublèrent la douce placidité de son sourire. Ainsi, elle put échapper à la surveillance méchante dont elle était l'objet. Toute la cour était à Vincennes lorsqu'arriva le terme de sa grossesse. Elle avait si bien dissimulé jusqu'au dernier moment qu'elle ne fit, pour ainsi dire, que passer de la chambre de la reine entre les mains des médecins et de la sage-femme cachée près de là. Les douleurs la prirent une heure après minuit, qu'on juge du courage de la pauvre fille et des précautions qu'il fallut prendre. Pour sauver les apparences et pour éloigner tout soupçon, on lui avait donné un appartement voisin de celui de la reine et que cette princesse traversait tous les matins pour se rendre à la messe. C'est là, séparée seulement par une porte d'une reine trop justement jalouse, qu'elle donna le jour à une fille légitimée sous le nom de Mademoiselle de Blois. Le roi fut présent aux couches, aida les médecins, partagea les angoisses de celle qu'il aimait, en père et en amant, et reçut le premier l'enfant dans ses bras. Cependant, midi sonnait. La reine allait passer pour entendre la messe. Elle entre, elle voit l'appartement garni de tubéreuses, de fleurs d'oranger et d'autres odeurs mortelles pour les femmes en couche. Expédient terrible, meurtrier, mais dont la Vallière était à peine contente. On dit à la reine que la Vallière avait été fort tourmentée dans la nuit d'une indisposition. La reine, alors, avec une jupe parfumée de peau d'Espagne, s'approche du lit de la malade et lui parle avec bonté sur son état. Dans la journée, le bruit se répandit que la Vallière était accouchée, mais la reine le détruisit par le simple récit de ce qu'elle avait vu. Le soir même, elle reparut chez la reine avec toute la compagnie, veilla, soupa et resta une partie de la nuit en coiffure de bal, la tête découverte comme si de rien n'était. Telle est pourtant la femme que l'on a osé accuser de fausse pruderie, de modestie bien jouée. Pour que la honte l'obligeât à une telle contrainte, il faut que moralement elle ait cruellement souffert. L'année 1667 fut bien fatale à La Vallière. Elle fut faite duchesse d'abord, elle perdit le cœur de son amant, et enfin, pour la seule fois de sa vie, elle fut audacieuse et manqua de respect à la reine. C'est en mai, au moment de son départ pour la conquête des Flandres, que Louis XIV conféra à sa maîtresse le titre de duchesse. Pour elle, il érigea en duché Péri, sous le titre de La Vallière, les terres de Vaujours et de Saint-Christophe, deux baronnies situées l'une en Touraine, l'autre en Anjou, transmissibles à l'enfant que le roi venait d'avoir. Par les mêmes lettres patentes datées de Saint-Germain-en-Laye, le roi légitimait Mademoiselle de Blois. Le préambule de ces lettres est assez curieux pour qu'on s'en soit souvenu. Pélisson le rédigea de sa plus belle écriture. C'est le roi qui parle, mais c'est bien plus encore l'amant passionné. Les bienfaits que les rois exercent dans leurs états, dit Pélisson Louis XIV, étant la marque extérieure du mérite de ceux qui les reçoivent et le plus glorieux éloge des sujets qui en sont honorés, nous avons cru ne pouvoir mieux exprimer dans le public l'estime toute particulière que nous faisons de la personne de notre très chère, bien-aimée et très féale Françoise-Louise de La Vallière, qu'en lui conférant les plus hauts titres d'honneur, qu'une affection très singulière, excitée dans notre cœur par une infinité de rares perfections, nous a inspirés depuis quelques années en sa faveur. Louis XIV, dans ses mémoires, année 1667, prend la peine d'expliquer ainsi à la postérité cet acte de sa toute-puissance. « N'allant pas à l'armée, dit-il, pour être éloigné de tous les périls, je crus qu'il était juste d'assurer à cet enfant l'honneur de sa naissance et de donner à la mère un établissement convenable à l'affection que j'avais pour elle depuis 6 ans. » L'édit enregistré, Louis XIV installa à Versailles la nouvelle duchesse, et, rassuré sur le sort de la mère et de l'enfant, il partit le 16 mai de Saint-Germain à la conquête de la branche de laurier nécessaire à ses futures apothéoses. Cette conquête de la Flandre ne fut, à bien dire, qu'une promenade militaire, presque un tournoi à armes courtoises. Tout avait été combiné, réglé d'avance, comme ces jeux de guerre où l'on exerce les soldats. Le jour, on paradait à cheval, le soir, on se réjouissait sous les tentes, l'or roulait et le vin coulait, dit Lafare, et jamais les gentilshommes de la maison du roi n'avaient été si joyeux. On eut fini en un tour de main. Turenne était là. Alors, pour que la fête fût complète, le roi partit au-devant de Marie-Thérèse, qui venait rejoindre l'armée avec toutes les dames. Il fallait montrer leur reine à ses nouveaux sujets et les éblouir des splendeurs de la cour la plus brillante de l'Europe. C'était bien le moins qu'on montrât à ces bons flamands ce que désormais on ferait de leur argent. Cette campagne si facile est un des plus brillants et des plus joyeux épisodes du règne de Louis XIV. C'est l'instant que l'excellent Vandermeulen a choisi pour nous montrer toute cette cour en campagne. Voilà bien les immenses carrosses dorés, maisons roulantes où l'on rit, où l'on joue, où l'on mange. Le roi va de l'un à l'autre, il cause, il rit, il agace les dames. De tous côtés, ce ne sont que gentilshommes enrubannés qui caracolent en tenue de Versailles sur leurs magnifiques chevaux. Mais cette conquête de la Flandre, dont la porte Saint-Martin est le monument héroïque-comique, le monument de cette agréable campagne est notre porte Saint-Martin, quoique datée d'une autre époque. Michelet, Louis XIV. Valut au roi une bien autre conquête, dont Amphitryon restera pour Louis XIV le honteux et éternel monument. Depuis les dernières couches de La Vallière, qui alors était de nouveau enceinte, le cœur du roi s'était peu à peu dégagé de liens qui n'étaient qu'habitude et errait de l'une à l'autre sans pouvoir se décider. 3 ou 4 dames, des plus aimables et des plus belles, Brantôme dirait des plus honnêtes, battait en brèche le cœur du roi. Elles le prirent d'assaut et ne le gardèrent pas. Mais elles aplanirent la voie pour madame de Montespan, dont l'heure était venue. C'est à Compiègne, sous le manteau discret de madame de Montausier, cette vertu si sévère, qu'eurent lieu les premiers rendez-vous de Louis XIV et de cette fille des Mortemart. Le secret, en commençant, fut admirablement gardé, et longtemps encore madame de Montespan put tromper la reine par ses hypocrites condoléances et sa dévotion affectée. La Vallière, elle, plus clairvoyante, ne s'y trompa pas une minute, elle comprit bien que le roi peu à peu se détachait d'elle et qu'il en aimait une autre, mais sans savoir encore quelle était cette rivale. Madame la Duchesse, c'est ainsi qu'on l'appelait désormais, avait voulu suivre la cour en Flandre. Depuis 7 semaines, elle était séparée de son amant et sentait le besoin de rassurer son cœur. Elle osa partir, malgré la reine qu'indignait cette audace, de venir lui disputer le cœur de son mari. Oubliant tout ce qui l'effrayait tant autrefois, elle se mêla à la suite, et l'exaspération de la reine fut telle qu'à la première halte, elle défendit qu'on lui donnât à manger. Tout le cortège de Marie-Thérèse était arrivé en vue de l'armée. Au loin, déjà, on distinguait le roi, monté sur un de ces énormes Normands, comme les peint si bien Vandermeulen. Le carrosse de la reine tenait la tête de la file, elle avait défendu que personne ne la précédât, elle se faisait une fête d'être la première à embrasser le roi. Tout à coup, on aperçut un carrosse qui, se détachant du cortège, coupait à travers champs et courait vers le roi au grand galop de ses chevaux. La reine le vit, elle se mit dans une incroyable colère. « Arrêtez-la » criait-elle, « arrêtez-la !» Nul ne l'osa faire, on craignait trop encore l'amour du roi, et elle arriva la première. Voilà cependant ce qu'en vue de toute l'armée osa faire la timide, la modeste Lavallière. Plus tard, elle se reprochait amèrement cette audace et s'accusait de ce que sa gloire et son ambition d'être aimée avaient été comme des chevaux furieux qui l'entraînaient vers le précipice. Le roi reçut admirablement cette maîtresse déjà délaissée. Il emmena même seul avec lui jusqu'à la fère, où les deux amants restèrent près d'une semaine. La fin de cette année si glorieusement commencée s'acheva triste et menaçante pour l'infortunée duchesse. Le roi dissimulait encore. Mais avec cette délicatesse d'impression d'une femme véritablement aimante, elle sentait que chaque jour se détachait ce cœur qui, si longtemps, n'avait battu que pour elle. Toute espérance n'était pas perdue, cependant. Elle était enceinte et un fils pouvait renouer encore cette chaîne qui menaçait de se rompre. La Vallière ne savait pas tout ce qu'il y avait d'égoïsme et de bestialité dans ce roi qui, pour repousser du pied ses maîtresses, pour les remplacer, choisit toujours le moment où les autres hommes redoublent d'attention, de soins et d'amour pour celles qu'ils aiment. Dans les premiers jours du mois d'octobre, La Vallière donna au roi un fils, le duc de Vermandois, dont la mort mystérieuse et tragique devait ouvrir le champ aux plus étranges rumeurs. Le roi était seul avec sa maîtresse lorsqu'arriva le moment décisif. « La pauvre créature, dit Bussy, fut prise de ce mal qui fait tant souffrir et en fut prise avec tant de violence et des convulsions si terribles que jamais homme ne fut si embarrassé que notre monarque. Il appela du monde par les fenêtres, tout effrayé, et cria qu'on alla dire à mesdames de Montausier et de Choisy qu'elles vinssent au plus tôt, et une fille de la Vallière courut à la sage-femme ordinaire. Tout le monde vint trop tard. Les dames, arrivant, trouvèrent le roi suant comme un bœuf d'avoir soutenu sa maîtresse, dont les douleurs avaient été assez fortes pour lui faire déchirer un collet de 1000 pistoles en se pendant au col du roi. Un instant, on crut la pauvre créature morte. Elle avait été prise d'une effrayante syncope, et madame de Montausier dit qu'elle croyait bien qu'elle venait de passer. Alors le roi, se jetant au pied du lit et fondant en larmes, « Oh mon Dieu ! S'écria-t-il, prenez tout ce que j'ai et rendez-la-moi !» Dieu la lui rendit en effet, et il en fit la plus malheureuse des femmes. Ce fut le dernier élan de passion de Louis XIV pour une favorite si digne de son amour, pour cette âme douce et tendre, timide violette qui se cache sous l'herbe, dit madame de Sévigné, et qui rougissait d'être maîtresse, d'être mère, d'être duchesse. Lavallière vécut, mais pour expier ses fautes d'amour. L'étoile d'une autre se levait. La passion nouvelle de Louis XIV pour madame de Montespan ne tarda pas, en effet, à se manifester au grand jour et de la façon la plus scandaleuse. Comme il fallait « sauver les apparences », le mot est joli, madame de Montespan alla s'installer chez la duchesse de Lavallière, et la pauvre favorite délaissée eut à souffrir les horribles tourments de la jalousie que, bien malgré elle, autrefois, elle avait fait endurer à l'infortunée Marie-Thérèse. Mais quelle différence ! Chastement craintive, Lavallière, lorsque ses yeux rencontraient ceux de la reine, sa rivale, semblait toujours demander grâce, on croyait qu'elle allait tomber à genoux. Madame de Montespan, au contraire, presque aussi brutalement égoïste que le roi, mais bien autrement cruelle, semblait prendre plaisir à retourner le poignard dans le cœur de l'infortuné. Chaque jour, quelque insulte nouvelle, quelque humiliation méditée, avec d'incroyables raffinements. Lavallière n'essaya même pas de lutter. Elle ne savait que gémir et fondre en pleurs. Et comment eût-elle pu lutter, d'ailleurs, contre cette superbe rivale qui, à une éclatante et splendide beauté, joignait l'esprit et la méchanceté des Mortemart. Contre cette femme qui, d'un mot, tuait ses ennemis. La pauvre duchesse, elle, n'avait plus que son amour. Sa beauté s'était flétrie, ses charmes s'étaient envolés. Sa dernière couche avait été désastreuse. Elle y avait laissé ce qui lui restait encore de jeunesse et de fraîcheur, et le roi, le croirait-on, fut assez misérable pour le lui reprocher. Les chagrins achevèrent l'œuvre du temps et des souffrances. Elle était pâle comme une morte, disent les mémoires, et avait toujours les yeux rouges. Elle était d'une maigreur effrayante et avait été frappée d'une sorte de paralysie qui lui rendait les mouvements très difficiles. Parfois, l'idée lui venait que toutes ces amertumes n'étaient qu'une expiation de sa faute. « Dieu me châtie cruellement, disait-elle alors, mais je l'ai mérité. » Et cependant, elle n'avait pas encore le courage de s'éloigner, de se dérober par la fuite à toutes ces humiliations si honteuses pour le roi et pour madame de Montespan. « Je suis la faiblesse même, disait-elle. » Et, en effet, un regard, une bonne parole de son amant suffisait pour lui faire oublier ses souffrances et ses larmes. Le roi semblait revenir vers elle, quelquefois, au jour où l'orgueil de madame de Montespan, presque aussi grand que le sien, lui résistait et lui tenait tête. De même qu'elle acceptait les avanies, Lavallière acceptait ses retours plus humiliants encore. Bien plus, elle s'en réjouissait. Au fond de son cœur, à toutes les illusions, avait survécu l'espérance, cette plante vivace qui croît au fond des âmes les plus corrodées et dont la dernière racine ne s'arrache qu'avec la vie. À chaque retour du roi, elle croyait que son amant d'autrefois lui était rendu. Elle séchait ses larmes, ses yeux redevenaient radieux de bonheur, sa démarche semblait plus légère. Mais toujours, par quelque odieuse méchanceté, elle était arrachée à ce beau rêve. Telle est cependant la femme que madame de Montespan attacha au char insolent de sa prospérité, qu'elle traîna misérablement dans toutes les traverses de la passion, qu'elle enchaîna entre le roi et elle par un excès de dépravation incompréhensible chez une femme jeune et passionnée, mais que pourtant on explique. Car enfin, il faut savoir comment ce roi et cette favorite traitaient cette pauvre âme déchue. Madame de Montespan en avait fait sa servante et le roi quelque chose de pis. On la faisait coucher dans une chambre par où passait le roi lorsqu'il allait chez Madame de Montespan, comme si on eût craint de lui épargner une seule goutte de ce calice d'amertume. Écoutons plutôt la princesse Palatine. On ne peut pas l'accuser d'aimer les favorites, celle-là. Elle les abomine, elle les exècre. Si un instant elle était toute puissante, certainement elle les jetterait à la porte du palais de Versailles. Et cependant, le malheur de la Vallière la touche, elle s'apitoie sur le sort de cette infortunée, elle regrette presque de n'avoir pas été là pour essuyer ses larmes. « Madame de la Vallière, dit la Palatine, a cru ne pouvoir faire une plus rude pénitence que de rester avec la Montespan. Celle-ci la traitait indécemment, cruellement, et se moquait d'elle en toute occasion, même en public. Elle fit plus. Sa jalouse rage ne fut pas satisfaite qu'elle n'eût excité le roi à avoir pour la Vallière les façons les plus désobligeantes et les plus dures. Il fallait que le roi passât par l'appartement de la duchesse de la Vallière pour aller dans celui de la Montespan. Il y avait un petit chien espagnol que l'on nommait Malice. Le roi, à la prière de la Montespan, le jeta à la duchesse de la Vallière en lui disant « Tenez, madame, voilà votre compagnie, c'est assez. » Cela était bien dur, d'autant plus qu'en parlant ainsi, il ne faisait que passer, n'ajouta pas le moindre correctif à ce peu de mots, et s'en alla trouver sa Montespan. Mélanges historiques de la princesse de Bavière. Cette simple affectation de la princesse a donné toujours à la Vallière son titre de duchesse, tandis qu'elle appelle l'autre la Montespan. N'exprime-t-elle pas bien mieux son indignation que de longues tirades? Les avanies de Madame de Montespan, pour être moins grossières, n'en étaient que plus cruelles. « Le roi a fait la Vallière duchesse, disait-elle un jour, parce qu'il savait que pour fille de chambre, je ne voudrais pas une personne de moindre qualité. » C'est Madame de Montespan qui répandit à la cour une abominable épigramme qui faisait une allusion cyniquement méchante aux accouchements mystérieux de celle qui était devenue son souffre-douleur. « Soyez boiteuse, ayez 15 ans, point de gorge, fort peu de sens, des parents, Dieu le sait. Faites en fille neuve, dans l'antichambre, vos enfants. Sur ma foi, vous aurez le premier des amants. » Et la Vallière en est la preuve. Madame de Montespan avait bien le droit de railler l'héroïque pudeur de la Vallière. La belle dame, pour donner des enfants au roi, n'y mettait pas tant de façons. Brisée de douleur, la Vallière eut bien l'audace un jour de faire entendre une timide plainte. « Je n'aime pas à être gênée !» Telle fut la sèche et laconique réponse de ce roi, si poli qu'il se découvrait devant les chambrières et qui eut bien mieux fait de se conduire avec une maîtresse délaissée un peu en gentilhomme. Ainsi vont les réputations, cependant. Et le nom de Louis XIV restera pour beaucoup de gens le synonyme de galante courtoisie. C'est vers cette époque que la Vallière envoyait au roi ce sonnet touchant, rimé sur une de ses lettres, par un des poètes restés ses amis. Tout se détruit, tout passe, et le cœur le plus tendre ne peut d'un même objet se contenter toujours. Le passé n'a point eu d'éternels amours, et les siècles futurs n'en doivent point attendre. La constance a des lois qu'on ne veut pas entendre. Des désirs d'un grand roi, rien n'arrête le cours. Ce qui plaît aujourd'hui, déplaît en peu de jours. Son inégalité ne saurait se comprendre. Louis, tous ces défauts font tort à vos vertus. Vous m'aimiez autrefois, et vous ne m'aimez plus. Mes sentiments, hélas, diffèrent bien des vôtres. Amour, à qui je dois et mon mal et mon bien, que ne lui donniez-vous un cœur comme le mien? Ou que n'avez-vous fait le mien comme les autres? Bien différente elle était des autres, cette pauvre duchesse, et rien ne put la consoler de la perte de son amour. Car les consolateurs ne manquèrent pas. Plus d'un grand seigneur, voyant dans ce mariage une source de prospérité pour sa maison, lui offrit de l'épouser. Elle refusa toujours, en disant qu'elle n'aurait pas trop du reste de sa vie pour pleurer les fautes de sa jeunesse. Cependant, la mesure était comble, et la Vallière ne put se résigner davantage à voir sous ses yeux le bonheur de celle qui lui avait enlevé le cœur du roi. Depuis longtemps, le repentir avec la désillusion était entré dans son âme. Elle se dit que Dieu seul pouvait pour elle remplacer l'homme, le roi qu'elle avait tant aimé, et elle résolut d'aller demander la paix, sinon l'oubli, aux solitudes du cloître. Une pieuse cohorte de dévots personnages la soutenait dans cette résolution. Bien des fois, avant le règne de la veuve Scarron, on retrouve autour du roi cette sainte phalange, surveillant d'un œil demi-clos les événements. Patiente, elle attend son heure. Elle aide à précipiter les favorites du haut du caprice royal jusqu'à ce qu'enfin, dans la couche de Louis XIV, elle pousse une Vashti de son choix, une élue de son cœur et de sa politique impitoyable. Beaucoup de ceux qui entouraient la duchesse de la Vallière étaient convaincus que la faveur de Madame de Montespan ne résisterait guère à l'éloignement de sa rivale. Ils ne se trompaient pas. Quoi qu'il en soit, les pieuses exhortations de ses amis de son infortune décidèrent la duchesse et, un soir de Mardi Gras, à une grande fête de Versailles, on apprit qu'elle s'était réfugiée aux Carmélites de Chaillot, près de Mademoiselle de la Motte d'Argencourt, cette première passion de Louis XIV. En apprenant la fuite de la Vallière, le roi eut comme un éclair de remords, le souvenir des enivrements de cette première passion lui revint au cœur. Peut-être se dit-il qu'il avait été bien cruel pour cette pauvre fille dont l'amour unique était un culte. Il quitta la fête presque aussitôt, et dès le lendemain, il fit porter à la fugitive une lettre dans laquelle il la conjurait de ne pas l'abandonner. Le maréchal de Bellefond, en qui la Vallière avait la plus grande confiance, fut chargé de la missive royale. Mais il ne put rien obtenir d'elle. En quelques lignes, elle répondit au roi que désormais elle ne voulait plus songer qu'à son salut. Cette réponse désola Louis XIV. Sévigné, lettre, 12 février 1671. Et non moins inutilement, il lui renvoya Lauzun qu'elle ne voulut même pas recevoir. Alors il cessa de prier, il ordonna. Colbert alla signifier les volontés du maître, et la Vallière se décida à revenir prendre sa lourde chaîne. « Hélas ! » dit-elle à Colbert, « autrefois, il serait venu me chercher lui-même. » Puis elle embrassa les religieuses qui avaient déjà tué le veau gras pour fêter la bienvenue de l'enfant prodigue. « Adieu, mes sœurs, leur dit-elle, vous ne serez pas longtemps sans me revoir. » « Au retour, dit Madame de Sévigné, le roi a causé une heure avec elle, il pleurait fort. Madame de Montespan fut au-devant d'elle les bras ouverts et les larmes aux yeux. Tout cela ne se comprend pas. Enfin, nous verrons. 6 jours après, Madame de Sévigné écrit à sa fille, Sévigné, lettre, 18 février 1671. Madame de la Vallière est toute rétablie à la cour. Le roi l'a reçue avec des larmes de joie et Madame de Montespan avec des larmes... Devinez de quoi? Tout cela est facile à comprendre. Il faut se taire. Il faut parler au contraire et dire que Madame de Montespan ne jouait nullement la comédie. La Vallière, pour elle, était un gage de la durée de sa faveur. À sa faveur seulement elle tenait, et lorsque, quelquefois, pendant une brouille, le roi retournait à la pauvre délaissée, réduite aux miettes du banquet de l'amour, elle riait aux larmes et disait que la Vallière ne la gênait point. On avait approuvé le départ de Madame de la Vallière, on blâma son retour. Toutes les femmes, Madame de Sévigné en tête, trouvèrent qu'elle manquait de dignité, comme si l'amour, une passion véritable et la dignité n'étaient pas choses incompatibles. Alors on se moquait de ce que l'on appelait les velléités de repentir de la Vallière, où on l'appelait une demi-repentie. Ici apparaît la sécheresse du cœur de Madame de Sévigné, qui, malgré son surprenant esprit, ne put jamais arriver à la sensibilité et s'arrêta toujours à la sensiblerie. « À l'égard de Madame de Lavallière, écrit-elle à sa fille, nous sommes au désespoir de ne pouvoir vous la remettre à Chaillot. Mais elle est à la cour beaucoup mieux qu'elle n'a été depuis longtemps, et il faut vous résoudre à l'y laisser. » Et encore, près de 2 ans après, 15 décembre 1673, « Madame de Lavallière ne parle plus d'aucune retraite. C'est assez de l'avoir dit. Sa femme de chambre s'est jetée à ses pieds pour l'en empêcher. Peut-on résister à cela ?» Cependant, Madame de Lavallière n'avait pas abandonné son projet de retraite. Seulement, ni le roi ni Madame de Montespan ne voulaient la laisser partir. Que d'affligeants spectacles pour elle, cependant, pendant ces années d'épreuve. C'est Madame qui meurt. Cette belle, cette touchante Henriette d'Angleterre a été empoisonnée par un des honteux favoris de son mari. Avec toute la cour, Lavallière frémit à la grande voix de Bossuet qui tonne du haut de la chaire « Madame se meurt, Madame est morte ». Puis, autour d'elle, elle voit grandir et croître la lignée impure de Madame de Montespan, ces bâtards qui étalent sur la pourpre le déshonneur de leur mère. Cette vie d'immolation, d'inépuisables amertumes, dura 3 ans encore. 3 ans encore on foula aux pieds celle qu'on n'appelait plus que l'ancienne favorite, vieille avant l'âge, elle n'avait pas 30 ans, flétrie comme une de ces fleurs frêles, fanées une heure après qu'on les a détachées de leur tige. Un jour que sa douleur était plus amère encore que tous les jours et qu'elle parlait d'entrer en religion, la veuve Scarron, qui faisait déjà le ménage de Madame de Montespan, lui dit, comme pour sonder la profondeur de son désespoir. Songez aux privations et aux austérités du cloître. Aurez-vous le courage de les supporter? Si jamais se plaignait la chair, répondit Lavallière, je n'aurai pour me trouver heureuse qu'à me rappeler ce que ces gens-ci me font souffrir. Et elle montrait le roi et Madame de Montespan. Enfin, l'heure du repos sonna pour elle, et il lui fut permis de se retirer dans un de ses cloîtres d'où, à 3 reprises déjà, le roi était venu l'arracher. Cette fois, elle y entrait pour toujours. Dès lors, elle ne vécut plus pour le monde, et jamais le bruit de cette cour de Versailles, dont elle avait été reine, ne put troubler sa méditation. Que d'événements, cependant! Ainsi, elle apprit tour à tour la chute de Madame de Montespan et celle de la belle Fontange, et celle de bien d'autres qui ne régnèrent qu'un jour, jusqu'à cette surprenante nouvelle du mariage du grand roi avec la veuve du cul de Jatte. À la grille du parloir, bien des amis vinrent la visiter, et pour les malheureux, l'affligée avait de bonnes paroles. Elle, la désespérée, eut cet honneur insigne de recevoir la reine Marie-Thérèse et de la consoler. Elle pleurait avec elle lorsque cette épouse tant outragée lui racontait les monstrueux scandales du roi. Alors Marie-Thérèse, qui l'avait tant haï et depuis tant regretté, put lui donner le baiser du pardon. Pendant 30 longues années que se prolongea sa dure pénitence, elle n'eut jamais un seul mot de regret ou d'amertume. La gloire de sa fille, cette ravissante mademoiselle de Blois, qui épousa le prince de Conti, 1680, sembla la toucher à peine. Lorsqu'on lui apprit la mort si douloureuse du comte de Vermandois, ce fils qui avait tous les vices de son père, sans avoir la puissance qui les fait excuser, elle ne put s'empêcher de verser des larmes abondantes, et, comme Bossuet s'efforçait de la consoler, elle lui dit, en essayant de sécher ses larmes, « Oui, vous avez raison. C'est assez pleurer la mort d'un fils dont je n'ai pas encore assez pleuré la naissance. » Ce n'est plus la duchesse de Lavallière, c'est la sœur Louise de la Miséricorde, écrivait un de ses anciens amis. Ce mot exprime tout le changement qui s'était opéré. C'est comme la paraphrase de la parole si laconique de Bossuet, le jour où cette autre Madeleine prononça ses vœux. Quel état! et quel état! Mais aussi, quel abîme entre les lettres d'amour de la belle et jeune fille d'honneur de madame et les réflexions sur la miséricorde de Dieu de la religieuse carmélite. Il y avait 30 ans qu'elle jeûnait et couchait à la dure, lorsqu'en 1710, elle s'éteignit sur un lit de cendres, elle, la maîtresse adorée de la jeunesse du grand roi. On prit des ménagements pour annoncer cette mort au vieux monarque. Mais qu'en était-il besoin? La duchesse de la Vallière, dit-il d'un ton sec, est morte pour moi le jour où elle a quitté ma cour.